Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Nous sommes aujourd'hui à Abidjan, l'occasion de saluer les voisins en Côte d'Ivoire. À mes côtés, Didier Akwété, directeur général du cabinet de recrutement Afrique Search. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Nous sommes ici parce que Afrique Search fête ses 20 ans de chasse de talents africains pour le continent depuis 1996. 20 ans, des bureaux un petit peu partout sur le continent africain. Ça sera l'occasion avec vous de regarder dans le rétroviseur, hein, comment a évolué la situation des cadres africains. Les entreprises ont-elles remplacé les expats d'hier par des compétences 100% africaines? Quels sont les profils que tout le monde s'arrache? Il y aura beaucoup de questions à discuter avec vous, Didier. Ça vous fait quoi de fêter vos 20 ans?
Beaucoup de cheveux blancs, il n'y a plus de cheveux à arracher, donc c'est parfait.
Ça va, on ne les voit pas pour le moment. Nous allons en parler aussi de ces compétences africaines avec une directrice des ressources humaines. Bonjour, Aïcha Maud Camara.
Bonjour.
Vous êtes DRH et communication de Petro Ivoire, une société de distribution de produits pétroliers et dérivés. Vous vendez aussi du gaz, d'ailleurs, aux ménages ivoiriens. C'est une entreprise familiale qui a été fondée par votre père il y a un peu plus de 20 ans, dirigée par votre frère et que vous avez rejoint après des études de gestion en France et puis une expérience professionnelle aussi dans l'audit. Hein.
C'est ça.
Vous n'avez pas connu les angoisses des diplômés chômeurs.
Hein. Non, heureusement.
Voilà. Vous allez nous parler de votre parcours et puis vous parlerez aussi en tant que DRH, bien sûr, hein, recruteuse vous aussi. Daouda Koulibaly, bonjour à vous.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous êtes banquier, directeur général de la CIB, la société ivoirienne de banque. C'est une filiale du groupe marocain Attijari Wafa Bank. Vous avez été élu manager de l'année par le patronat ivoirien il y a 2 ans.
Déjà quelques années, oui.
Ouais, vous êtes passé par une grande école en France, HEC. Et c'est vous qui avez demandé à rentrer en Côte d'Ivoire. Hein.
Absolument.
Vous nous direz pourquoi. Don Doucet est également avec nous. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Directeur des affaires publiques et de la communication pour Coca-Cola Afrique subsaharienne. Vous n'êtes jamais parti du continent.
Ben non, j'ai cette chance.
Vous êtes tout le temps dans l'avion, mais vous avez toujours travaillé en Afrique. C'est un pur produit du système togolais, diplômé en droit international. Vous avez bâti toute votre carrière en Afrique, Cotonou, Lagos, Dakar, puis Abidjan, via des multinationales anglo-saxonnes. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un expat made in Africa?
Oui, ça se dit, parce que je suis pas au pays et que j'ai traîné ma bosse un peu partout.
C'est ça, vous acceptez l'étiquette. Donc voilà, en tout cas, vous l'entendez, les voisins et les voisines, des parcours très différents, de quoi inspirer les jeunes, à condition bien sûr hein, de dire toute la vérité. Cadre sup en Afrique, quelle carrière, quel salaire, quel rôle aussi pour le développement du continent. Didier Akwété, 1996, c'était il y a 20 ans, vous créez le cabinet Afrique Search avec des amis. On était en plein afro-pessimisme dans les années 90.
Ah, l'Afrique était réellement perçue comme le dernier des continents et puis surtout l'endroit où il ne fallait surtout pas aller. Donc on nageait encore en plein afro-pessimisme à l'époque, avec malgré tout des réalisations sur le continent mais qui n'étaient pas visibles. Vous savez, on dit toujours qu'on voit toujours les trains qui arrivent en retard. Et l'Afrique arrivait très en retard à l'époque. Et donc, on nageait en plein afro-pessimisme. C'est vraiment le cas.
Détecter donc des hauts potentiels africains formés aux quatre coins de la planète pour les réinjecter dans des entreprises sur le continent africain. Hein, c'était ça l'idée. Ça veut dire qu'à l'époque, comment vous faites? Vous courez après les CV partout?
Alors nous avions une chance, c'est que quand nous étions étudiants à Paris, nous étions de grands militants associatifs. Et moi à l'époque, je dirigeais une association qui s'appelait Renaissance Africaine, qui regroupait des milliers de jeunes cadres diplômés en France, en Europe. Et donc on voyait bien que ces compétences existaient et qu'il fallait simplement créer un véhicule pour leur permettre d'accéder aux opportunités que l'Afrique pouvait offrir, même s'il n'y avait pas tant que ça à l'époque. Mais nous connaissions ces compétences et c'était ça notre chance.
Ils avaient envie de rentrer ou ils se posaient des questions, ils ne savaient pas comment faire?
Ils se posaient beaucoup de questions. En gros, ils sentaient bien qu'il y avait un appel de l'Afrique, qu'il fallait faire un retour d'une certaine manière, mais les jeunes Africains ne savaient pas comment ni où étaient les opportunités. Donc, disons, il y avait un déficit d'information. À l'époque, il fallait essayer de regrouper à travers un véhicule et puis redonner envie aux gens de rentrer.
20 ans après, qu'est-ce qui a changé finalement?
Alors, d'abord, l'Afrique a beaucoup changé, même si ce n'est pas toujours perceptible. Les taux de croissance qu'on a vus ces dernières années, c'est un indicateur. Mais beaucoup d'Africains sont rentrés et puis beaucoup d'Africains ont pris en main, entre guillemets, le développement économique du continent. Au niveau politique, c'est encore une déception. Mais en tout cas, au niveau économique, on a vu de jeunes Africains se prendre en main, créer leur entreprise, diriger des entreprises. Et ça, c'est une évolution fondamentale qui aujourd'hui encore est le reflet autour de cette table. Il y a 20 ans, cette table, je ne l'avais pas. Les dirigeants étaient ou des expatriés ou des patrons qui avaient la soixantaine.
C'est clair, on n'aurait pas pu faire cette émission il y a 20 ans.
On n'aurait pas pu. Donc le profil a beaucoup rajeuni et une montée en compétences qu'il n'y avait pas forcément à l'époque.
Est-ce qu'on peut parler réellement d'une africanisation des postes ?
Alors, nous sommes nés, en fait, dans ce processus, puisque lorsque nous avons créé AfriSearch, le processus commençait très timidement. Les grandes entreprises se posaient des questions sur leur encadrement en Afrique, et on a surfé un petit peu aussi sur cette vague en disant « c'est du discours, c'est vrai, mais nous allons le transformer en réalité parce que les compétences existent. Arrêtez de dire « africanisation, il n'y en a pas, il y en a ». Et vous allez passer de la théorie à la pratique.
Ouais, sauf qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus le seul sur le marché.
Tant mieux d'ailleurs.
Vous avez pas mal de concurrents, de cabinets concurrents qui se sont lancés comme vous dans la chasse aux talents africains.
Bah, c'est excellent parce qu'on a ramé dans le désert pendant des années pour faire passer le message en disant que l'Afrique, c'est l'Eldorado, il faut retourner. Aujourd'hui, on est plus nombreux, le message porte plus, le gâteau aussi un peu plus gros. Et tant mieux pour le business.
Et les grands cabinets qui s'y sont mis, les Michael Page Africa, etc. etc.
Absolument. Pour nous, ça
vous flatte ou ça vous inquiète ?
Non, ça nous flatte parce que ça a été un très bon indicateur pour nous. Parce que lorsque vous commencez sur un marché, vous êtes seul. Où vous devez passer votre temps à expliquer pourquoi ce marché doit exister. Et qu'à un moment donné, les grands acteurs arrivent. Ça veut dire que votre travail a payé et que tout le monde reconnaît que ce marché est une réalité. Et pour nous, c'est plutôt positif. Parce qu'aujourd'hui, ça permet à des milliers d'Africains de trouver des jobs via ces véhicules. Mmh. Et c'était ça notre mission. C'était pas de gagner l'argent. C'était vraiment d'offrir un cadre pour permettre aux Africains d'avoir accès à l'emploi. Et aujourd'hui,
oui, enfin, c'était une entreprise, c'était pas une ONG que vous aviez fondée.
Oui, c'est une entreprise, mais vous avez une entreprise qui passe son temps à parler de son produit pour convaincre le marché, perd beaucoup de temps, d'énergie, de l'argent. Alors que quand il y a plusieurs acteurs qui disent le marché existe, dont chacun dépense un peu plus en communication, et du coup, ça devient un marché presque parfait.
Aujourd'hui, vous recevez combien de CV par semaine de cadres africains formés partout sur le continent africain comme
alors,
à l'extérieur pour travailler en Afrique ?
À travers nos bureaux, on doit être sur une moyenne de peut-être 500 CV par semaine.
Par semaine, oui, à travers les 8 bureaux, 6 bureaux en Afrique et 2 à l'extérieur, Washington
à
et Paris.
Près. Alors parfois, lorsqu'il y a des événements comme Afrique Talent, on monte sur des chiffres autour de 800 000 CV par semaine.
Afrique Talent qui démarre la samedi à Abidjan.
Ça crée un appel d'air.
Alors les vraies raisons du retour, je vais passer la parole à un banquier, Daouda Koulibaly, parce que vous, votre carrière a très mal commencé. Vous étiez lycéen en Côte d'Ivoire, vous rêviez de faire médecine, vous avez été orienté à la faculté de sciences économiques.
Je crois que vous êtes bien informé.
Donc, trop bon élève ?
Écoutez, oui. En réalité, moi, j'avais envie de faire des études de business. Et donc, c'était la pression familiale qui voulait que je fasse des études de médecine parce qu'il fallait un médecin dans la famille. Vous connaissez donc les grandes familles. Hein. Et il faut un médecin, il faut un pharmacien, il faut un militaire. Et à l'époque, c'était l'État qui orientait. Effectivement, après mon bac, c'est réussi avec mention. J'ai quand même été orienté à la faculté des sciences économiques d'Abidjan. Et non pas, en fait, en médecine, alors que j'avais tout pour y aller. Bon.
Vous n'en êtes pas trop mal sorti, HEC au début des années 90, un début de carrière en France.
Oui, ça m'a permis de retomber sur mes pieds, donc aller vers le business. Donc c'est la fac de Sciences Éco, HEC, et puis début de carrière effectivement à Paris, et puis retour à Abidjan.
Contrôleur de gestion, notamment. Il y a 15 ans, vous entrez à la Société Ivoirienne de Banque, et c'est vous qui avez demandé à revenir en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? C'était... Vous avez surpris votre employeur ?
Alors, disons oui, parce que, donc, comme Didier le disait, donc, sortant d'HEC, étant dans un Big Six à l'époque, hein, donc, c'était Price, Waterhouse, et donc les gens ne comprenaient pas pourquoi, après une saison, je décidais donc, de revenir à Abidjan et de travailler donc, pour le bureau d'Abidjan. Alors qu'en fait, j'étais promis à une carrière à Paris. Mais mes choix étaient tout simples, c'était effectivement de revenir. Et j'avais eu la chance ou la malchance de rencontrer Didier au moment où il commençait. Donc je fais partie des premières victimes de Didier.
Et, de l'africanisation des compétences et des managers.
Voilà, donc et je suis rentré, donc effectivement.
Directeur général adjoint ? à 37 ans
oui.
de la société ivoirienne de banque qui appartenait à l'époque au Crédit Lyonnais.
C'est ça.
Donc une carrière assez fulgurante. Aïcha Maud Camara, pourquoi vous aviez envie de rentrer en Côte d'Ivoire ? Certes, il y avait cette entreprise familiale, Petro-Ivoire, qui vous attendait en Côte d'Ivoire, mais vous sortiez d'une école de gestion en France, vous aviez travaillé là aussi dans une entreprise très connue en France. Pourquoi rentrer ?
Écoutez, parce que d'abord, je n'étais pas censée rentrer pour intégrer l'entreprise familiale. J'avais envie d'abord de voler de mes propres ailes. C'était déjà hors de question que je rentre en fait à Petro-Ivoire.
Ah
ouais,
bon
j'avais pas cette ambition au départ. Quand j'étais en France, je rêvais de rentrer dans un Big Five. Donc, je voulais rentrer dans un des cabinets qui était là.
Cabinet de conseil.
Voilà. Et je voulais faire de l'audit. Et je suis rentrée. J'ai été prise dans un des cabinets. Ça a bien marché. Au bout de 2 ans, mon père a eu besoin de moi. Donc, il y a eu une opportunité et je suis rentrée là-dedans. Parce que, bon, après...
Donc, ce n'était pas une stratégie de carrière réellement, de rentrer en Côte d'Ivoire après une expérience en France ?
Non, j'ai jamais travaillé en France. Je n'étais pas dans un cabinet en France. Je suis rentrée juste après mes études et j'avais besoin de me prouver que je pouvais réussir par moi-même sans passer par mon père.
Ouais. Donc, en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire.
Don Doucet, vous avez toujours voulu rester en Afrique.
Absolument.
Après votre diplôme au Togo.
Mais c'est une réflexion qui a quand même évolué parce que quand j'ai fini mon DEA à l'université de Lomé, maintenant à l'époque ça s'appelait l'université du Bénin.
À l'époque tous vos amis voulaient partir.
Tout le monde est parti, était parti. Et moi-même, j'étais sur le point de partir. Je venais d'obtenir une bourse pour l'université de Laval à Montréal, au Canada. Okay. Et au moment où j'étais en train de suivre le processus, justement, administratif pour la bourse, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte avec une compagnie britannique, la British American Tobacco. Et plein d'amis m'ont dit, écoute, de toute façon, le doctorat, tu le feras à tout moment dès que tu le décides. Donc, va tenter ta chance en entreprise. Et j'ai eu raison d'y aller parce que j'ai eu la chance, dès que j'ai intégré l'entreprise, de voyager, d'aller en Europe, justement parce que le siège était à Londres, on avait des opérations un peu partout dans le monde. Et quand j'ai pris conscience de la réalité un peu du monde occidental, alors c'est forgé ma conviction que je préférais évoluer en Afrique plutôt que d'aller vers l'Occident. Mmh. Même si l'envie au départ était jeune Africain qui voulait rentrer dans un monde international, mais j'ai constaté très vite que le monde international était en train d'arriver vers nous.
Donc le tabac, ensuite vous arrivez chez Coca-Cola. Vous dites souvent que les Anglo-Saxons ont compris plus vite l'avantage des élites africaines.
Absolument, et j'ai des chiffres pour le prouver, autant à BAT qu'à Coca-Cola aujourd'hui. La majorité du management de ces entreprises sont des Africains. Aujourd'hui, dans ma franchise, par exemple, à Coca-Cola, 100% du directeur général jusqu'au mid-management et au low-management, tout le monde est Africain.
Oui, mais ça répond à quel raisonnement, quelle stratégie de la part de ces multinationales ?
Bon, je pense, pour parler du cas de Coca-Cola, qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect, bien sûr, business, parce que, bien évidemment, ça fait plus de sens d'avoir des gens qui ont une meilleure maîtrise de leur terrain, de leur marché, de la culture, de l'environnement dans lequel ils opèrent, que des expatriés qui prendront plus de temps et qui n'est même pas sûr, garanti qu'ils finiront par percer un peu les secrets de ce marché pour pouvoir faire évoluer la chose. Mais ensuite, il y a ce côté communautaire dans la culture américaine où il faut donner l'opportunité aux indigènes de contribuer à leur communauté.
Oui. Prononcer le mot indigène. Mais ça veut dire que ça ne choquait pas quand vous disiez, moi, ma carrière, je l'ai construite par, pour l'Afrique.
Absolument.
Elle est construite comme ça, vous me prenez telle quelle ou pas ?
Non. Je le prends exactement comme ça.
D'ailleurs, ça ne choquait pas ?
Non, pas du tout. Parce que quand vous rentrez dans ces genres de boîtes, on vous donne, dans votre plan de carrière, qu'est-ce que vous choisissez ? Est-ce que vous êtes mobile internationalement ou bien vous voulez rester dans votre région ? Moi, j'ai toujours coché, je ne quitte pas le continent africain.
Oui. Tout en étant dans l'avion tout le temps, hein, on est bien
d'accord.
Hein, vous êtes archi flexible.
Je vous rappelle que le continent, c'est quand même 54
pays. Pas que les auditeurs s'imaginent que vous ne sortez pas du quartier, ce n'est pas vraiment ça.
Je voudrais rebondir sur ce que disait Don Doucet tout à l'heure. C'est effectivement, on le sent, que les entreprises anglo-saxonnes ont très vite compris qu'effectivement, il y avait de la compétence locale qu'il fallait en fait valoriser et qu'il fallait mettre en avant. Donc, vous dites que j'ai été DGA à 37 ans. Pour beaucoup de gens, c'était effectivement un exploit qu'une banque française, franco-française, arrive à pousser quelqu'un de mon âge comme directeur général adjoint. C'était du jamais vu. Alors que, en fait, les banques anglo-saxonnes, elles avaient déjà dépassé ce tabou.
Alors bon, vous, vous avez été effectivement les précurseurs. Aujourd'hui, les entreprises recherchent des compétences africaines. Comment attirer ces talents ? On en parle dans quelques instants. Oh yeah.
Milliards de voisins, c'est maintenant.
7 milliards de voisins, de passage à Abidjan avec Didier Akouété qui fête les 20 ans du cabinet AfriSearch. C'est l'occasion de laisser la parole à des cadres africains qui font des carrières africaines sur le continent. Didier Akouété et Maud Camara, les cadres sup africains sont-ils aujourd'hui, vous diriez, vous en tant que DRH, en tant que chasseur de tête, plus exigeants aujourd'hui ou pas, ces cadres supérieurs africains, Didier Akouété?
Je dirais oui. Si vous voulez, lorsqu'on a lancé AfriSearch il y a 20 ans, ceux qui voulaient rentrer n'avaient pas beaucoup d'exigences, honnêtement, parce que les gens étaient avides d'opportunités, ceux-là qui voulaient rentrer et acceptaient un petit peu, je ne veux pas dire n'importe quelles conditions, mais en tout cas étaient moins exigeants. Les entreprises en face également ne faisaient pas beaucoup d'efforts. On a constaté qu'avec les années, d'abord, les Africains ont compris qu'ils avaient une véritable expertise qui était recherchée, qui valait valoriser. Donc, leurs exigences sont de plus fortes, de temps à autre un peu aussi extravagantes. Et j'ai quelques exemples du Canada il y a quelques mois. Et les entreprises également en face ont compris que si elles voulaient ces talents, il fallait qu'elles mettent un petit peu plus sur la table que ce qui n'était proposé. Deux exemples. Lorsque, en 97, une entreprise dans le BTP, par exemple, ou dans le conseil proposait 300 000 francs CFA à un diplômé à Paris pour entrer en Afrique de l'Ouest, et que le candidat acceptait, aujourd'hui, il faut qu'il propose au moins le double, je parle en CFA, au moins 600 000 ou 700 000 CFA pour attirer le moindre diplômé parisien, africain à Paris. Ça, c'est une donnée qui est très importante. Donc, on a vu la courbe des salaires changer avec les années pour coller un petit peu plus aussi au profil de ces candidats et y comparer aussi ce qu'ils pouvaient gagner ailleurs.
Oui. À Petro-Ivoire, Maud Camara, alors vous n'embauchez pas d'expats, hein, vous embauchez des cadres supérieurs africains. Est-ce qu'ils sont plus exigeants qu'avant ?
On dira oui. Ce sont des personnes qui prennent conscience aujourd'hui de leurs valeurs, de leurs compétences, qui sont très formées, qui sont bien formées et qui sont conscients aujourd'hui de ce qu'ils sont capables de pouvoir donner. Il y a aussi la culture, il y a aussi le besoin de savoir comment ça se passe ailleurs et tout, qui les conforte aussi dans leurs différentes positions. Alors oui, les personnes sont exigeantes, mais exigeantes par rapport à la valeur qu'ils sont capables d'apporter, la valeur ajoutée qu'ils sont dont ils sont conscients. Et bon, est-ce qu'on doit parler d'exigence ? On parlera plutôt de mise à niveau, en fait, de la norme, en fait. Parce qu'on sait finalement ce qu'on sait faire, ce qu'on sait donner. Voilà.
Quand on parle d'exigence, il y a des exigences qui sont accrues pour ceux qui ont été formés en dehors du continent africain. Ça crée des frustrations vis-à-vis des autres, ceux qui n'ont pas quitté le continent, par exemple, ou pas ?
Non.
Est-ce que ça se déroule différemment, un entretien chez vous, quand on négocie un package, un salaire ?
Bah, disons que chez nous, et aujourd'hui, je pense dans toutes les boîtes, les responsables de ressources humaines travaillent dans des grilles salariales. Après, tout dépend. Il y a le niveau de compétence, c'est vrai. Il y a l'expérience qui joue.
Oui, le parcours.
Il y a pas mal de choses qui entrent en ligne de compte dans la négociation du salaire. Maintenant, c'est les mêmes chances qui sont offertes à tout le monde.
Daouda Koulibaly.
Oui, si je peux dire un mot en tant que là...
Bien sûr, vous êtes là pour ça.
Voilà, directeur général. Donc, effectivement, il m'arrive d'être face à des candidats qui sont diplômés localement et d'autres qui viennent donc de l'étranger. Effectivement, ce n'est pas en fait tant le diplôme étranger qu'on recherche, c'est la valeur de la personne, valeur, qu'est-ce qu'elle
exactement.
Vaut. Et donc là, l'exemple, c'est Dandussier qui est là, qui a fait toutes ces études-là, qui est capable d'assurer un poste que quelqu'un qui vient de l'étranger n'est pas capable d'assumer. Alors, donc c'est d'abord la valeur intrinsèque et c'est quand on a une valeur qu'on est plus à même d'être exigeant.
Daouda Koulibaly, Aïcha Camara, Don Doucet, Didier Akouété, vous restez avec nous, on va entrer dans le dur juste après le flash et on va évidemment continuer à parler de salaire, de demandes extravagantes, vous nous parliez de ça tout à l'heure, Didier Akouété, on a envie de savoir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, quelle carrière pour les cadres africains aujourd'hui qui sont de mieux en mieux formés, 7 milliards de voisins, on se retrouve dans 3 minutes juste après le flash, restez avec nous.
Tous les cinémas du monde.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins sur RFI. Travailler en Afrique aujourd'hui. Quelle carrière pour les cadres africains? Quelles attentes des entreprises? On a la chance de faire cette émission à Abidjan. On est installé au siège d'AfriSearch. Didier à côté nous a ouvert les portes du bureau.
Dans notre immeuble privé.
Exactement. Toutes les délégations des bureaux AfriSearch en Afrique arrivent pour fêter les 20 ans d'AfriSearch. Ça se passe aujourd'hui. Il y a le bureau de Lomé qui est arrivé. Il y a le bureau de Dakar. Il y a le bureau de Johannesburg, il y a le bureau de Ouagadougou, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Exactement, il y a beaucoup de monde. Didier, à côté, vous êtes donc le fondateur de ce cabinet de recrutement AfriSearch. Vous nous disiez en première partie d'émission, vous avez fondé ça avec des amis. À l'époque, vous étiez très jeune parce qu'il y avait cette nécessité de diplômés africains qui avaient envie de revenir sur le continent africain, qui ne savaient pas comment trouver des opportunités. Alors aujourd'hui, on parle de cadres africains, peu importe qu'ils soient rentrés ou jamais partis. D'ailleurs, comme vous, Don Doucet, qui êtes directeur des affaires publiques et de la communication chez Coca-Cola Afrique subsaharienne. Vous êtes toujours resté sur le continent africain. Maud Camara est directrice des ressources humaines et de la communication chez Petro Ivoire, une entreprise 100% ivoirienne, familiale d'ailleurs, fondée par votre père. Daouda Koulibaly, vous êtes banquier, directeur général de la CIB, la société ivoirienne de banque. Vous êtes passé par la France, HEC, et vous êtes rentré à la surprise générale de votre employeur à l'époque en décrétant que vous vouliez faire une carrière africaine. Je vous lis un message de Kader, un auditeur de Ouagadougou, qui nous dit: pour moi, le salaire des cadres en Afrique est bien moindre que celui des cadres en Europe. Qu'est-ce que vous répondez, Didier, à côté, aujourd'hui, vous qui êtes chasseur de tête et qui participez à la négociation des salaires, j'imagine?
Alors, de facto, oui, parce qu'on n'est pas sur les mêmes échelles de revenus. Oui. Si vous voulez, lorsque vous payez un studio à Paris 1000 euros, 1500 euros, vous allez payer peut-être l'équivalent en Afrique, une maison avec 3 ou 4 chambres.
Ouais, quoi qu'avec l'immobilier à Abidjan, je ne sais pas.
Hein, peut-être pas à Abidjan aujourd'hui, enfin, bon, parce que ça flambe.
Ou les gosses. Donc,
non, mais si vous voulez, la première chose, c'est de ne pas considérer que le salaire équivalent d'un continent à un autre, quel que soit le poste.
Il faut parler de niveau de vie.
C'est surtout ça. Et puis la réalité de l'environnement économique. Donc les grilles fixées par les entreprises en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou en Afrique du Sud prennent en compte le niveau de vie, combien la personne va dépenser pour se nourrir, se loger, etc. Donc non, les salaires ne peuvent pas être pareils. En revanche, ce qu'on a constaté, et en écho à la première partie de l'émission, c'est que les salaires ont évolué quand même ces 20 dernières années, en partant de l'expérience d'AfriSearch, où les postes qui étaient payés par exemple 100, aujourd'hui sont payés 200, 300, voire 400, avec une surenchère dans certains secteurs où il peut y avoir une pénurie de compétences. On prend par exemple le secteur de la banque, dont Daouda parlera certainement mieux que moi. Au moment donné, avec l'arrivée des banques nigérianes dans l'Afrique de l'Ouest, toutes les banques débouchaient les meilleurs cadres et proposaient des salaires faramineux pour avoir les meilleurs. Donc selon la pression aussi du marché, on voit que les salaires peuvent flamber, ou en Afrique du Sud,
c'est le cas. On peut donner des exemples un peu, parce que c'est ce que veulent les auditeurs.
En termes de chiffres?
Oui.
Un directeur, par exemple, qui est payé dans une entreprise 2 500 000 francs CFA, peut être débauché à 4,5 millions, avec des avantages. Ou quelqu'un qui a 5 millions lui propose 8, 9 millions, avec beaucoup d'autres avantages. Et on a vu ça dans le secteur comme les télécoms, comme le secteur financier.
Daouda Koulibaly?
Oui, absolument.
Sur le secteur financier?
Oui, il y a eu effectivement,
les salaires ont été multipliés par 4, 5.
Voilà, on a vu arriver de nouvelles banques. On est passé de moins de 10 banques à aujourd'hui 25, 26 banques. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel arrivant, donc pour gagner du temps, il est obligé d'aller débaucher dans les banques qui existent déjà. Et là, effectivement, il est obligé de faire un effort sur le salaire. Et là, ça contribue effectivement, mécaniquement, à tirer vers le haut. Parce que nous, pour garder nos talents, nous sommes obligés de nous aligner ou de faire un effort.
Voilà. Mais alors, ça vous coûte cher, vous, en tant que DRH, Aïcha Maud Camara, dans votre entreprise 100% ivoirienne, qui vend dérivés pétroliers, qui vend du gaz?
Déjà, on n'est pas assujetti déjà à cette pression qu'il y a, par exemple, dans le secteur des banques ou dans le secteur de la téléphonie. Mais on a quand même cette pression de pouvoir maintenir un certain niveau pour l'ensemble des personnes que nous engageons, parce que c'est des métiers qui sont très spécialisés, qui sont très techniques, qui nous demandent quand même de faire un certain niveau d'effort pour pouvoir conserver, maintenir en fait les talents que nous avons.
En réalité, ce n'est pas en comparant ce que tu gagnes en Afrique avec ce que quelqu'un d'équivalent gagne en Europe qui est le vrai problème. C'est de savoir si l'entreprise dans laquelle tu es en train de rentrer, les critères de fixation des postes, des responsabilités et des rémunérations qui vont avec, les mêmes critères sont ceux qui sont appliqués au siège en Europe. Et c'est ça qui est important.
Il ne faut pas qu'il y ait une tropicalisation des salaires, c'est ce que vous voulez dire.
Pas.
Et ce n'est plus le cas globalement aujourd'hui.
De moins en moins d'ailleurs, parce que
ça veut dire quoi? Que par exemple, vous êtes un expat made in Africa, vous êtes togolais, vous travaillez pour Coca-Cola à Abidjan. Oui. Mais vous avez un contrat local ou un contrat d'expat?
Justement, avant qu'on ne considère Don Doucé, il est de quelle origine, ce qu'on regarde d'abord, c'est quel est le poste qu'occupe Don Doucé. Donc, je ne suis pas recruté, je ne suis pas traité à l'intérieur de Coca-Cola en tant qu'un Togolais, je suis traité à l'intérieur de Coca-Cola en tant qu'un leader qui a tel cahier de charge à délivrer à Coca-Cola. Combien est-ce que ce cahier de charge vaut sur le marché international? C'est ça qu'on vous applique. Maintenant, viennent avec le travail technique que font les DRH. Quels sont les critères du pays dans lequel il va être basé? Quels sont les critères qui rentrent en jeu pour la fixation de ce salaire?
Et vous
ne
répondez pas à ma question. Vous êtes en contrat local en...
Ah non, je suis en expatriation.
Ah d'accord.
Avec
ah,
un gros salaire, je le sais.
On imagine. Parce que c'est lui qui m'a débauché.
Mais Didier, à côté, alors justement, aujourd'hui, quels sont les... Vous nous parliez d'extravagance, d'exigence parfois de cadre, avec notamment un exemple que vous vouliez donner à partir du Canada.
Mais il y a une méconnaissance du marché. Si vous voulez, il y a 3 mois, j'étais invité à une conférence pour discuter avec des jeunes Africains qui veulent rentrer.
À McGill, me semble-t-il.
Oui, c'est ça. Et les questions, est-ce que dans notre package, si je rentre dans mon pays... On me paye des vacances pour retourner au Canada tous les ans, alors que je rentre dans mon pays. Est-ce que lorsque je vais avoir des enfants dans l'entreprise, je peux tout de suite, quand je signe mon contrat, mettre un dispositif de protection de mes enfants? Est-ce que quand j'arrive, j'ai droit à 2 ou 3 chauffeurs? J'ai dit, mais attends, c'est des choses que vous n'avez pas au Canada. Pourquoi vous avez des exigences aussi folles quand vous allez en Afrique, où vous me dites que vous allez contribuer au développement avec des entreprises qui sont soumises à d'autres formes de pression? Donc, de temps à autre, comme le dit Don, il faut regarder les critères qu'une entreprise rémunère pour exécuter une tâche et ce qu'elle est prête à vous payer par rapport à un marché.
Non, mais... même ça, je peux dire, à la limite, si vous venez et que vous délivrez et que vous correspondez, comme Don le disait,
à un niveau... Que vous délivrez, en fait, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'en fait, que vous êtes, oui, que vous faites du cash et que... la boîte veut absolument vous garder et que vous rentrez effectivement dans une case, comme vient de dire Don Doucé, vous avez droit. Il y a des entreprises ivoiriennes aujourd'hui qui payent une partie de la scolarité des enfants ivoiriens, de cadres ivoiriens qui sont...
Dans la finance, par exemple,
dans la finance,
là
oui,
où aujourd'hui il y a beaucoup d'opportunités, où on recherche beaucoup de compétences techniques et où il n'y a pas assez de compétences, donc du coup... Les cadres sont un peu les rois du pétrole.
Les cadres, oui, les cadres et les bons cadres sont effectivement... En fait,
les bons cadres.
Moi, j'ai effectivement donc, des gens, parce que je suis directeur général et que peut-être à un moment donné, on a été à l'école ensemble, il me dit, oui, je cherche un poste en Côte d'Ivoire et je veux un poste de DG ou de DGA. Je dis, moi, je ne sais pas faire et je ne peux pas vous aider. Allez-y voir Didier, peut-être avec un peu de chance. Mais en fait, je pense qu'il faut d'abord peut-être trouver quelque chose qui corresponde, sans forcément en fait, regarder ce qui se passe, sans voir, demander des choses qui sont complètement aberrantes.
Mais vous reconnaissez qu'il y a une occidentalisation des packages et des avantages, en dehors des salaires, notamment, je crois que dans la finance, il y a une retraite qui est élevée par capitalisation pour salariés des banques. Hein. Il y a un accord de branche au sein de l'UEMOA.
Non, mais ça, ce n'est pas choquant.
Oui, mais enfin...
Mais c'est pas choquant. C'est-à-dire payer la scolarité en partie des enfants, payer le gardiennage dans les pays où il y a des problèmes de sécurité.
Les assurances santé, bien sûr.
Le véhicule.
Voilà. Oui. Mais rentre dedans.
Après, il ne faut pas non plus penser comme vous venez de l'étranger, on vous attend comme Dieu. Il y a des gens qui sont sur le marché, qui sont là localement, qui ont une formation locale ou qui sont rentrés avant vous et qui, en fait, délivrent.
C'est surtout, comme disait Didier, c'est une méconnaissance, en fait, du marché. Alors, comme on dit, on pense en fait qu'on vient de l'étranger, donc on sait tout faire. Alors qu'on a de très bonnes compétences ici sur place et on a même la possibilité même de vous apporter plus que ce que vous pouvez nous apporter. Donc en fait, ce qu'il faut mettre en avant quand on veut rentrer par exemple ici en Afrique pour travailler, c'est mettre en avant la plus-value qu'on est capable d'apporter à l'entreprise. Et l'entreprise nous recrute sur la base de cette plus-value qu'on est capable d'apporter et non pas sur le fait qu'on vient de la France ou pas.
Sur les carrières des cadres supérieurs en Afrique, est-ce que cette montée des exigences, parce que globalement, quand même, il y a une montée en compétences, hein, générale. Est-ce que finalement, ça profite un peu et ça redescend, ça ruisselle sur les niveaux d'en dessous, Didier à côté?
Alors, ça se généralise, mais disons que les cadres et les dirigeants, ce sont des exigences qui sont plus facilement acceptées par les entreprises. Parce qu'on estime que, entre guillemets, la création de richesses et compte tenu des salaires aussi qui sont payés, se fait énormément à ce niveau-là. Donc, sur les populations intermédiaires et le personnel de base, disons, c'est une discussion qui est un peu plus lente.
Donc, en gros, les inégalités se creusent au sein des entreprises.
Ils pourront mieux parler de moi, mais en tout cas, les cadres que nous recrutons, puisque nous recrutons surtout cadres et dirigeants, oui, on voit bien que les packages sont de mieux en mieux négociés, les avantages sont de mieux en mieux négociés.
Pas seulement pour les stars, c'est
en
ça.
En fait, ce n'est pas que les inégalités se creusent. Il faut comprendre en fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise et que vous mettez un Ivoirien comme directeur, il y a 5 ans, c'était un expatrié qui, lui, en fait, avait peut-être 5-10 fois plus que ce que l'Ivoirien gagnait. Donc, à la fin de la journée, l'entreprise est gagnante et le directeur, lui aussi, qui a amélioré sa situation, est gagnant. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut voir les choses.
Un message d'auditeur, Moustapha, il y a plusieurs messages d'ailleurs, de Moustapha à Bamako, de Mohamed à Praia au Cap-Vert, qui nous disent en gros, hein, impossible de faire une carrière en Afrique en dehors des multinationales. Où là, c'est vrai qu'on a un vrai plan de carrière. Nous, on veut tous, on vise tous, Total, Orange, etc. Je ne vais pas citer toutes les marques. Vrai ou faux ? Alors, madame la DRH d'une entreprise 100% ivoirienne, Maud Camara.
Je m'inscris totalement au faux par rapport à ça. Je suis d'ailleurs un pur exemple. Tout dépend en fait du projet de chacun. Nous, par exemple, à l'intérieur de notre entreprise, au niveau de Petro-Ivoire, on offre un plan de carrière, de développement, et on est une entreprise qui a encore beaucoup à faire. Donc oui, peut-être qu'on pourrait aller à l'international plus tard, mais on a une diversité en fait d'opportunités qui peut s'offrir à nous.
Mais vous, alors certes, c'est une entreprise familiale et vous appartenez à cette famille, mais est-ce que forcément vous vous êtes posé la question dans votre parcours, votre carrière est loin d'être finie, Maud Camara, donc vous êtes à mi-chemin, grosso modo, est-ce que vous vous êtes demandé, le matin quand vous vous rasez, est-ce que vous demandez si vous êtes bankable sur un marché international en tant que DRH ?
Pas plus que ça, parce que je pense qu'on a de bonnes opportunités de développement en fait de l'entreprise. Alors tout dépend en fait des projets, comme on dit, de l'entreprise. Il y a des entreprises en fait qui sont, nous on est une entreprise jeune, on a énormément d'opportunités devant nous, on a des conquêtes de territoire même à faire. Non, au marché international, bon, si j'ai une opportunité, oui, mais...
Ce que je veux dire, il faut le prendre avec des pincettes. Arriver à un certain niveau de carrière, il y a de nouveaux éléments qui sortent. C'est la réalisation de
le
soi.
Le challenge.
Qu'est-ce que vous voulez
c'est quoi
faire
la réalisation de soi en pour fait, un cadre africain.
Et qu'est-ce que j'apporte aussi.
Exactement. Ouais, et chez la plupart des jeunes cadres africains aujourd'hui, ce que vous apportez à votre communauté, ce que vous apportez à votre continent joue un rôle primordial dans les choix qu'ils feront. J'ai un ami, par exemple, qui a quitté Coca-Cola pour aller à Côte d'Ivoire, qui est une entreprise totalement ivoirienne. Pourquoi ? Parce qu'il veut développer ses compétences dans l'agroalimentaire, parce qu'il se voit un entrepreneur d'ici quelques années sur le continent.
La réalisation de soi pour vous, Daouda Koulibaly ?
Bah écoutez, c'est comme...
c'est une question qu'on ne poserait pas à un cadre européen aux États-Unis, non Didier ?
Non, effectivement, si vous voulez. On est en mission en Afrique, quasiment, et on le perçoit comme ça, parce que le retard développement est tel qu'on se dit... Il y a moyen de contribuer à accélérer le développement, la transformation de l'Afrique. Et donc, tout le monde a un peu cette mission qui sommeille dans son subconscient et qui se révèle à un moment donné. Et je taquinais Daouda. Lui, il développe l'Afrique à travers les financements qu'il fait aux entreprises, au secteur privé, aux champions locaux. Et ça boucle votre question. Aujourd'hui, on fait de belles carrières dans les entreprises africaines. Ecobank, c'est une entreprise africaine. MTN, c'est africain. NCA, c'est africain.
Allez pas raconter trop que les banques financent la création d'entreprises sur le continent parce qu'on va avoir une levée de boucliers. On va être assailli de messages. Alors, ça sera un autre débat.
C'est pas le débat, Emmanuel. Mais
Daouda Koulibaly, oui, la réalisation de vous-même comme cadre africain.
Comme ils disent, en fait, effectivement, c'est un choix personnel. À un moment donné, on est à la croisée des chemins. Il faut faire le choix qu'on a envie de faire. Et moi, en rentrant, en travaillant donc dans une banque où je suis donc dans ma position, je pense que si j'ai eu le prix de meilleur manager, c'est pas parce que je finance uniquement que les multinationales, mais c'est parce qu'aussi donc il y a un tissu de PME, il y a un tissu d'entreprises locales comme Petro-Ivoire que nous avons financé. Au moins, elle a lancé un projet qui était structurant pour elle. Nous avons été à leur côté en mettant en fait ce qu'il fallait mettre. Et donc ça, à la fin de la journée, ça fait plaisir de voir que ça a servi de levier pour se développer.
Milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Nous parlons des cadres africains aujourd'hui à l'occasion des 20 ans d'AfriqueSearch. On est dans les locaux d'AfriqueSearch à Abidjan. Oui, on a cette chance-là. C'est Didier à côté qui nous accueille. Et autour de la table, des cadres supérieurs, des managers qui racontent leur parcours, soit des cadres qui sont rentrés, soit des cadres qui ont fait toute leur carrière sur le continent africain. On parlait de la réalisation de soi. C'est une donnée importante dans un parcours personnel qui n'est pas forcément posée comme telle, comme question sur d'autres continents. J'aimerais aussi vous poser la question à tous, travailler en Afrique, dans des pays où les routes, l'électricité, les banques sont défaillantes, hein, excusez-moi, mais c'est vrai quand même. Ça. Est-ce que ça vous donne quelles compétences utiles dans une économie mondialisée ? Faire face à tant de difficultés au quotidien, Don Doucet de Coca-Cola.
Moi, je dirais que c'est un avantage pour nous autres. Parce que opérer dans cet environnement, mais quand même réussir à délivrer les résultats qui sont attendus.
Délivrer, c'est delivery, hein, en anglais.
Oui,
c'est ça,
malheureusement.
C'est-à-dire faire du chiffre, on a compris.
Quand vous opérez dans un environnement aussi compliqué, mais que vous arrivez quand même à faire vos résultats, forcément, comparé à ceux qui opèrent dans un environnement beaucoup plus aseptisé, si je puis dire, où tout est carré, tout est ordonné, qu'on sort. Soit dit en passant, c'est la raison principale pour laquelle moi j'adore ce continent, parce que quand c'est trop propre, quand c'est trop nickel, quand c'est trop blanc, ça ne m'intéresse pas. Je préfère un environnement où chaque chose que je fais, chaque chose que je touche, je peux voir le résultat tout de suite. Parce que c'est un terrain encore vierge, un terrain fertile, et vous pouvez cueillir les fruits immédiatement. Alors quand vous êtes dans cet environnement-là et que vous arrivez quand même à vos résultats, forcément, vous avez quelque chose de plus que ceux à qui on a donné déjà le minimum de base. Et ensuite, c'est ce qui est attendu d'eux, c'est ce que vous avez réussi à délivrer.
Maud Camara.
Oui, et moi, je suis tout à fait d'accord.
Face au manque de compétences aussi, parfois
Non, comme je le disais tout à l'heure, moi, mon propos, en fait, il se situe dans le fait que il y a beaucoup de choses à faire sur l'Afrique et sur le continent. Là, par exemple, vous étiez en train de parler d'environnement avec des coupures d'électricité ou d'autres difficultés, mouvements d'insécurité et tout. Mais pourtant, dans ces pays-là, on réussit quand même à développer quelque chose. On réussit à faire avancer l'économie. On réussit, en fait, non seulement à faire avancer nos entreprises, mais aussi à être un acteur aussi majeur dans le pays. Et ça, c'est une source de satisfaction inimaginable.
Mais tout de même, retenir son souffle à chaque élection, par exemple, c'est épuisant ou c'est stimulant, Daouda Koulibaly ?
Écoutez, pour le banquier que je suis, on va dire, c'est un peu stressant parce que, bon, effectivement, je crois que quand on a dit qu'on fait face à la difficulté, mais celle-là, effectivement, retenir son souffle à chaque élection, c'est quand même un peu particulier. Surtout ce qu'on a vécu en 2010, c'était quand même assez compliqué.
Ça veut dire que vous avez acquis ces compétences-là d'être programmé pour gérer les risques, pour les affronter, pour pouvoir délocaliser le business à toute vitesse,
aujourd'hui,
par exemple.
Aujourd'hui, mon PDG le dit avec fierté, on a appris à fermer une banque en une journée, et on a appris à rouvrir une banque en quelques heures. Et donc ça, c'est quelque chose, en 100 ans, le groupe Atijari, ils ne l'avaient jamais fait. On a réussi à le faire avec des cadres locaux, des Ivoiriens, moi-même à la tête, nous avons réussi à le faire en quelques jours.
Le risque management fait partie maintenant de notre vécu quotidien, hein, parce que c'est un peu comme vous êtes sur le continent, pour nous qui avons des responsabilités régionales, j'ai une carte, je sais que tel pays a telle élection telle année, donc je sais à peu près quoi attendre de ce pays-là. Je sais à peu près que l'autre, il est en stabilité, donc je sais comment dispatcher mes ressources en fonction de ce que je dois délivrer.
Jouer avec la balance en permanence, c'est ça ?
Avec un effet de balancier, en anticipant sur autre chose. Et comme il l'a dit, effectivement, on fait face à des situations qui chaque fois nous enrichissent, qui chaque fois nous rendent meilleurs. Didier peut le témoigner, en fait, même Don Doucet, tous nos amis qui étaient en Afrique, qui ont eu du boulot en Europe ou en Asie, aujourd'hui cartonnent parce que, bon, ils ont travaillé dans des conditions qui étaient difficiles, ils arrivaient à délivrer. Oui. Et donc là, dans un environnement plus aseptisé, on a des amis aujourd'hui qui ont choisi de partir et qui sont très contents, qui performent là où ils sont.
Absolument. C'est-à-dire qu'on développe une résilience, une capacité à s'adapter, une capacité à innover, imaginer des solutions qui sont uniques sur ce continent. Ouais. Vous savez, M-Pesa, le mobile money,
paiement par téléphone mobile,
qui est né au Kenya, c'est parce que les gens se sont adaptés aux réalités de leur environnement. C'est un continent où on imagine des situations chaque heure et chaque jour.
Alors, vous, par exemple, Don Doucet, vous avez commencé votre carrière dans le tabac. Aujourd'hui, vous travaillez pour le leader mondial de la boisson sucrée. Vous le savez, hein, certains prédisent que le sucre, ce sera le prochain tabac dans les années à venir, la même croisade, mais cette fois contre les maladies qui sont liées au surpoids. Comment est-ce qu'en Afrique, vous allez anticiper ça ?
Ouais, on ne fera rien de particulier en Afrique qu'on ne fait dans le monde parce que, comme vous le savez, c'est un problème universel qui n'est pas spécifique, si vous voulez, au continent africain. Donc, les solutions que nous apportons, vous m'obligez à parler un peu plus de ma boîte là, sont des solutions d'innovation en termes de quel produit est-ce que le nouveau consommateur du 21e siècle. C'est comme ça que nous voyons la chose.
Mais en gros, vous pouvez dormir tranquille parce que vous savez qu'une taxe soda chez vous, ce n'est pas pour demain par rapport à l'Amérique où le débat est sur la table et où ça va faire très mal.
Non, bien au contraire, parce que justement, nous sommes obligés de compter avec la donne de la mondialisation. Vous savez, la mondialisation, ce n'est pas uniquement pour les entreprises, c'est aussi pour les gouvernements. Quelque chose qui a marché pour le gouvernement français, le gouvernement ivoirien est en droit de regarder et voir dans quelle mesure je peux tirer les mêmes avantages de cette situation. Et comme disait Daouda tout à l'heure, tous ces éléments, nous sommes, nous qui opérons sur le continent, obligés de les anticiper parce que c'est des choses qui n'existent pas encore et que nous factorisons, si vous voulez, dans nos plans de développement que nous faisons sur les années à venir.
Globalement, vous tirez des avantages de la faiblesse de vos États aussi, pour dire les choses vraiment.
Non, bien au contraire. Je peux vous dire, comme vous avez dit tout à l'heure, formé en Afrique, mais évolué dans un milieu international.
En Afrique, vous êtes tranquille.
90% de mes collègues avec lesquels j'ai été formé travaillent pour le compte des États. Donc, le même niveau de compétences qui sont mis à la disposition des États africains. Et je peux vous assurer que quand je fais mes after-work, le niveau de langage que je tiens avec...
C'est les petits cocktails pour faire du réseau. Hein,
exactement, après le bureau. Le niveau de langage technique que je tiens avec les jeunes inspecteurs de services des impôts en Côte d'Ivoire, ça ne change véritablement pas du même langage que j'utilise dans mon entreprise parce qu'on a été aux mêmes écoles, on a acquis les mêmes compétences. Ils sont en train de
faire
le boulot.
Mais vous n'avez pas la même pression de la population, de l'opinion publique sur le problème que posent les boissons sucrées.
D'où la raison que moi j'ai plus de pression qu'eux, malheureusement, et la raison pour laquelle aussi les entreprises multinationales sont perçues comme étant celles qui rémunèrent le plus, mais je peux vous assurer aussi que c'est celle qui stresse le plus.
Et les sociétés africaines s'organisent. Vous avez vu, après la hausse de l'électricité,
la société civile,
les manifestations qu'il y a, qui font plier les gouvernements, on le voit de plus en plus partout. Donc Coca-Cola n'est pas à l'abri de tout ça. Hein.
Quand on manifeste contre l'électricité et que vous avez une agence bancaire qui est à côté, elle est là.
Elle est victime de la situation.
Elle est victime de la situation, elle est cassée.
La réalité, ceci dit, hein, quand même, aujourd'hui pour vous, c'est que vous travaillez sur le seul continent au monde où, en gros, plus on est éduqué, moins on trouve d'emploi. Est-ce que vous le ressentez à votre niveau, où vous êtes passé dans le niveau vraiment des cas très supérieurs, le manque de postes correspondant à votre niveau? Est-ce que ce sont des discussions que vous avez entre vous?
D'une façon ou d'une autre. Et c'est ça aussi les avantages que vous avez quand vous êtes africain, que vous opérez sur votre continent. Je peux te donner mon exemple concret. Aujourd'hui, dans Coca-Cola, dans le secteur de la distribution, plus que jamais nous créons des emplois. Et nous voulons les donner à nos frères parce que nous savons que c'est de là que viendra la croissance. Absolument. Nous savons que c'est de là que viendra la croissance. Vous convenez que si c'était quelqu'un qui n'avait pas le même lien avec le continent qui était à ce poste, la démarche dans ce sens-là ne sera peut-être pas aussi immédiate que ça ne l'est dans notre cas. À ce moment-là, ce que vous regardez, moi, dans ce que vous avez posé comme question, je vois beaucoup plus une opportunité qu'un challenge parce que le terrain est vierge. Mais nous sommes en train de rentrer dans la mondialisation et c'est le moment ou jamais de capturer ça. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui la notion d'entrepreneuriat est en train de prendre le pas et alors là à grande vitesse sur
la notion de fonctionnaire d'État
ou des choses.
Globalement, vous en tant que cadre qui avez réussi avec un beau parcours, vous êtes sollicité par les jeunes. Ils vous demandent des conseils, Daouda Koulibaly.
Oui, il y a beaucoup de jeunes, surtout moi par exemple qui suis dans les ressources humaines, j'ai beaucoup de jeunes qui m'approchent pour savoir un peu comment s'orienter déjà.
Quel conseil vous leur donnez? Parce qu'on arrive au terme de cette émission.
Écoutez, je leur dis en général d'abord avoir la formation qu'il faut, avoir la formation adéquate, c'est très important, pouvoir savoir s'orienter, savoir ce qu'on veut, mais surtout se développer personnellement. Il faut s'extravertir en fait, être un peu plus ouvert, et ça aide pour les entreprises.
Daouda Koulibaly, quand les jeunes viennent vous voir, vous leur répondez quoi?
Je suis dans le CIA de Didier où nous avons des programmes, le programme Excellent Jeune. Je suis aussi le président de HEC Albany Côte d'Ivoire. Le message que je porte, c'est de dire aux jeunes Ivoiriens, vous pouvez rentrer à HEC. Et depuis, en fait, que nous sommes à la tête de cette association, nous avons en moyenne 4 à 5 admis Ivoiriens qui vont chaque année. Et donc, c'est déjà, en fait, nous leur donnons l'envie de réussir en disant, pour surtout travailler et être rigoureux.
Et vous, Don Doucet, qui avez réussi sans quitter le continent africain?
Essentiellement, ce que je dis à mes frères et à des amis avec lesquels j'ai l'habitude de causer, c'est de dire n'oubliez jamais que le diplôme n'est que le certificat qui confirme votre aptitude, votre intelligence. Ce n'est pas une fin en soi. Quand vous avez un diplôme supérieur, ce que ça veut dire, c'est que vous avez une intelligence et une aptitude à délivrer des choses d'un certain niveau. Donc forcément, si vous mettez, vous exploitez ce potentiel-là, vous irez beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Parce que malheureusement, dans l'Afrique francophone, surtout francophone, j'insiste, on a tendance à caler, à se bloquer sur le diplôme.
On a bien compris l'allusion. Un faux débat. Oui. Didier à côté, je vous laisse le mot de la fin sur les cadres africains.
Ça remet en question de l'adaptation de nos systèmes éducatifs aux besoins du marché. Les conseils, d'abord, c'est les choix de formation et de filière. Il faut que ça corresponde à un besoin sur le marché. On insiste dessus, il faut savoir faire quelque chose. C'est-à-dire avoir des compétences, pouvoir exercer un métier. C'est plus important que de cumuler des doctorats, des maîtrises, à ne plus savoir quoi en faire. Et effectivement, plus on est mal diplômé, et surdiplômés, bon, on trouve du boulot en Afrique.
Merci à vous tous, Maud Camara, Daouda Koulibaly, Don Ducé. Merci à vous, Didier Akouété. À la technique, à la réalisation, Mathieu Salabert. L'émission a été préparée à Paris par Cécile Lavolo. Demain, 7 milliards de voisins, place aux jeunes, justement, qui veulent entreprendre, cette fois sur le continent africain. Didier Akouété, on remet le couvert. Demain, vous reprendrez la casquette du coach. Vous êtes d'accord?
Je suis de service.
Tel que les jeunes vous connaissent, finalement, sur RFI, chaque mois, dans cette émission. Ils présenteront leur projet. Là, ils seront tous autour de la table, ils vous demanderont des conseils et ce sera cette fois une vraie rencontre et pas au téléphone et ils devront vous convaincre de leur talent de jeune entrepreneur. À demain les voisins et les voisines.
Venez participer à la